Il était devenu squelettique, décharné. Son visage était hagard, il avait les traits tirés. On voyait les os saillants de son visage. Il était faible, il avait du mal à marcher. Vous voyez le personnage? Et puis tout d'un coup apparaît un autre personnage dans le tableau, un ange entouré de lumière, qui descend d'un pas léger, joyeux, le sourire aux lèvres, alerte, comme s'il venait tout droit du ciel. En fait, pour la circonstance, il venait tout droit des enfers. Deux personnages totalement opposés, c'est le moment justement où le diable s'approche de Jésus, au moment de sa plus grande faiblesse. D'ailleurs, depuis le temps, le diable n'a pas changé de méthode. Jésus venait de prendre devant toute la foule cette position par rapport à son Père dans le baptême. Il l'avait proclamé haut et clair. Dieu s'était manifesté. Et c'est là que le diable vient. Dans nos vies, il est dans les deux mêmes. C'est lorsque publiquement nous prenons position, c'est lorsque publiquement nous disons quelle est notre couleur, que le diable arrive pour nous faire regretter notre choix. Il n'a pas changé de méthode. Et c'est à ce moment-là que Satan arrive et se présente à Jésus, non pas comme nous le représentons souvent, avec les cornes, la fourche, la queue fourchue, rouge partout. Écoutez, si le diable se présente à votre porte de cette manière-là, et il vous dit « Je suis le diable, je suis venu pour te tenter », vous allez lui claquer la porte au nez, n'est-ce pas? Il est plus malin que ça, il ne va pas venir avec les cornes, la queue fourchue, la fourche rouge pour vous dire « Je suis venu pour te tenter ». Il vient au contraire comme un ange de lumière. Et c'est ainsi qu'il se présente à Jésus, comme l'ange qui était venu arrêter le bras d'Abraham au moment où il allait sacrifier son fils. L'ange qui, au dernier moment, avait saisi le bras pour que l'inévitable ne soit pas commis. Il se présente un peu comme le même ange, celui qui vient et qui dit à Jésus, « Voilà, tu as réussi ton test, ton épreuve est finie, le jeûne est terminé, tu peux maintenant vivre pleinement ta vie de fils de Dieu. D'ailleurs, le test a été réussi, je suis envoyé par le ciel pour te dire que tu as réussi, que ton jeûne est terminé, que ton épreuve est passée. Maintenant, vis, mange et bois, réjouis-toi. » Mais l'ange dit, « Tu ne ressembles cependant pas au fils de Dieu. Tu as mauvaise mine, une mauvaise allure. Je me demande d'ailleurs si c'est vraiment toi le fils de Dieu. » Et lui dit, « Si tu es le fils de Dieu, alors vas-y, mange, prends cette pierre, tu la vois cette pierre, prends-la et mange, ton jeûne est terminé, Dieu m'envoie pour te dire que tu es libéré des souffrances. » Il y avait un mot de trop, « si ». Le « si » que l'on entend dès le départ de l'histoire. Si tu es le Fils de Dieu. Et dans l'esprit de Jésus a retenti cette idée, on s'est déjà rencontré quelque part. Et lui répond, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Le diable a perdu une bataille, n'a pas perdu la guerre. Il l'emmène, vous le savez, au sommet d'une grande montagne. Et lui fait voir les royaumes de ce monde. Cette montagne, elle a déjà servi lorsque Dieu a montré à Moïse toute l'histoire du peuple d'Israël qui allait entrer dans le pays promis. Du haut de cette montagne, Dieu avait montré à Moïse tout le plan du salut, du début à la fin, les royaumes du monde. Maintenant, le diable l'utilise pour montrer à Jésus tous les royaumes du monde et lui dit, écoute, maintenant, tu es venu pour te faire connaître comme le Messie, eh bien, soit. Je peux te donner tous ces royaumes, c'est pas difficile, il suffit que tu m'adores, c'est une simple formalité, ils sont à moi, je te les donne. Pas besoin de passer des siècles et des siècles et des siècles de lutte pour christianiser, pour conquérir ces royaumes, tu peux les avoir maintenant, je te les donne. Je te les donne. Adore-moi simplement et puis de ces royaumes, tu les as tout de suite. Maintenant. Là. Pas besoin d'attendre tant de temps. Pas besoin de faire tant de luttes. Tu peux les avoir. N'es-tu pas venu pour dominer spirituellement sur eux? Prends-les. Ils sont à toi. Il suffit de m'adorer. Si tu es le Fils de Dieu. Et Jésus répond que non, on ne peut adorer que Dieu seul. Dieu seul. Alors le diable l'emmène au sommet du temple. Et l'évangile de Luc nous dit qu'au sommet du temple, il l'a invité à se manifester en puissance. Ah, tu veux jouer à « Il est écrit », jouons-y ensemble. Il est écrit, ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Et le diable lui explique que finalement, dans la tradition juive, lorsque le Messie doit venir, le Messie va se présenter au-dessus du temple. Et le Messie, se présentant au-dessus du temple, sera reconnu comme le Messie par le peuple, parce que ce sera conforme à ce qu'ils attendent de sa part. Alors, le diable lui dit, voilà maintenant, t'es sur le temple, manifeste-toi. N'es-tu pas venu pour te faire connaître comme le Messie? Dis-le-leur tout de suite. Pas besoin d'attendre les difficultés, pas besoin de traverser toutes ces épreuves. Vas-y maintenant. Jette-toi. Fais-toi connaître. Pas besoin d'aller à l'humiliation, pas besoin d'aller au sacrifice, pas besoin d'aller à la souffrance, pas besoin d'aller à la croix. Pas besoin de traverser toutes ces frustrations pendant des années. Fais-toi connaître tout de suite comme le Messie. Dis-le-leur directement, franchement, maintenant, qu'ils le sachent. Et ils te recevront comme tel. Épargne-toi toutes ces misères, toutes ces souffrances. Si tu es le Fils de Dieu, vas-y maintenant. Saute en bas, tu as les promesses. Ils te porteront sur des mains. Et tu seras acclamé par la foule comme le Messie. N'es-tu pas venu pour te faire connaître comme tel? Jésus le renvoie et lui dit qu'il ne peut, il n'a pas le droit de tenter l'Éternel, son Dieu. Toutes ces tentations, quand j'y pense, m'amènent à penser qu'en réalité, jamais, jamais nous n'avons affronté les tentations qui nous sont survenues avec autant de sérieux et de consécration que Jésus ne l'a fait à ce moment-là. Jésus a résisté jusqu'au bout par la grâce de Dieu. Et quand je vois Jésus aux prises avec le diable dans des tentations énormes parce que lui avait le pouvoir de transformer les pierres en pain, il avait la possibilité de faire ce que le diable lui proposait. Il avait à sa ressource toute la puissance du ciel qu'il ne devait pas employer pour rester comme nous. Où donc a-t-il appris cette force, cette résistance au mal? L'Épître aux Hébreux nous donne la solution. Au chapitre 5, Épître aux Hébreux, chapitre 5. Il est question dans ce chapitre de Jésus, et au verset 8, l'apôtre Paul donne ici la clé que nous avons besoin de recevoir et de comprendre. Hébreux chapitre 5, verset 8. En parlant de Jésus, il dit, il a appris, bien qu'il soit fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Ah, le gros mot est lâché. Il a appris l'obéissance. Et j'entends déjà nos contemporains qui nous disent, écoutez, pasteur, l'obéissance, c'est un mot d'un autre siècle, ça. Ne nous parlez pas de ça. Et vous avez peut-être comme moi entendu nos contemporains qui disent « Mais enfin, je suis adulte, je ne veux pas être considéré comme un enfant, je suis assez grand pour savoir ce que je dois faire. Je n'ai pas besoin de quelqu'un à côté de moi qui me dise ce qu'il faut que je fasse. Je suis assez grand pour faire ce que je veux. Jésus a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Et l'apôtre rajoute, bien qu'il soit fils. Et je pense, si Jésus a appris l'obéissance par ce moyen-là, dites-moi donc, par quel moyen allons-nous, nous, apprendre l'obéissance? Ceux qui parmi vous sont parents savent très bien qu'apprendre l'obéissance à un enfant est une entreprise qui demande de la persévérance et de la patience. Parce que l'être humain n'a pas dans sa nature l'obéissance comme une donnée de base au départ. C'est quelque chose qui doit s'apprendre. Et vous savez, parents, qu'il est parfois nécessaire de faire rougir un petit peu le derrière de nos enfants pour que l'obéissance s'installe dans leur cœur. Souvenez-vous quand ça a été notre tour. C'était pas plus simple pour nos parents de nous enseigner l'obéissance. Jésus a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. C'est vrai, la tentation n'est pas le péché. La tentation devient le péché quand nous y donnons accès, quand nous suivons ce que la tentation nous propose de faire. Jésus a été tenté, n'a pas péché. Oswald Chambers a écrit une phrase à propos de la tentation que je trouve extrêmement appropriée. Il dit « La tentation, c'est la suggestion de prendre un raccourci pour réaliser mes objectifs les plus élevés, non pas pour aller dans le sens de ce que je sais être mal, mais dans le sens de ce que je sais être bien. » Malheureusement, c'est juste. La tentation, c'est l'invitation à prendre un raccourci, non pas pour faire le mal. On n'a pas besoin d'un raccourci pour ça, on sait comment ça se fait. Mais la tentation, c'est l'invitation à prendre un raccourci pour faire ce que nous pensons être bien. Et c'est ainsi que le diable lui-même s'est présenté à Jésus. Un raccourci. Jésus a entendu le diable lui proposer un programme bien différent que celui pour lequel il était venu. Il lui a proposé un raccourci qui évitait la croix. Il lui a proposé le service sans le sacrifice. Il lui a proposé la couronne sans la croix. Il lui a proposé la gloire sans la victoire. Il a proposé la victoire sans le combat. Et le combat sans l'obéissance. Raccourci, raccourci. Tu n'as pas besoin d'aller à la croix et de passer toutes ces souffrances. Tu peux avoir ton objectif réalisé maintenant, tout de suite. Laisse tomber la souffrance, laisse tomber la croix. Qui veut y aller alors que tu peux y aller maintenant à ton objectif? Maintenant, prends-le. La tentation, c'est l'incitation à prendre un raccourci pour accomplir nos objectifs les plus élevés, ce que nous considérons comme étant le bien. Et lorsque nous y pensons, c'est en effet comme cela que les choses se présentent dans notre existence. Vous pouvez réfléchir à tous les raccourcis que le diable vous suggère. Il en est un certain nombre que notre société prend facilement aujourd'hui. Pensez par exemple, oh, nous sommes invités par des amis, et c'est vrai, ils n'ont pas accepté les principes bibliques de ce que l'on mange et de ce qu'on ne mange pas, de ce que l'on boit et de ce qu'on ne boit pas. Mais enfin, ce n'est pas le moment de commencer à leur faire une étude biblique. On va faire comme eux pour cette fois. Raccourci. Je suis seul, j'ai besoin de compagnie. Oh, je sais que les gens avec qui je me tiens, c'est des gens qui boivent, qui jurent, qui ont une moralité à eux, mais enfin, c'est leur problème. Je suis seul. Vous ne savez pas ce que c'est d'être seul, vous. Au moins, ils me tiennent compagnie, eux. Raccourci. Je l'aime. Alors pourquoi attendre le mariage pour aller vivre ensemble? Qu'est-ce que ça peut faire? Avant la cérémonie, après, quelle différence? Je l'aime. Allons vivre ensemble, maintenant. Raccourci. Dieu ne veut pas que Par mon entreprise, je donne un mauvais témoignage. Un chrétien qui a une entreprise qui tombe en ruine, c'est un mauvais témoignage. Il faut donc que je tienne ça debout. Même s'il faut faire passer un certain nombre de choses sous la table pour que ça tienne debout. Raccourci. Dieu ne veut quand même pas que je loupe mes examens. Un chrétien qui manque ses examens, ça fait mauvais effet. Donc si je peux avoir la réponse autrement que dans ma mémoire, ça me permettra de réussir les examens, de donner un bon témoignage et de réussir ma carrière pour le Seigneur. Raccourci. Vous pouvez trouver tous les raccourcis que le diable vous a suggérés et les retrouver maintenant et les repérer. La tentation, c'est une invitation à prendre un raccourci, non pas pour faire le mal, mais pour faire ce que nous considérons être le bien. Pensez un instant, qu'est-ce qui serait arrivé si Joseph avait accepté le raccourci de la femme de Potiphar? Aurait-il pu délivrer le reste de son peuple? Que serait-il arrivé si Daniel avait accepté le raccourci de l'adoration du roi comme c'était imposé par la loi? Il aurait pu se dire, ça dure un mois, je vais me cacher dans un coin, on ne va pas faire des problèmes inutiles. Que serait-il arrivé au ministère prophétique qu'il avait reçu? Que serait-il arrivé si les compagnons de Daniel avaient pris le raccourci de la statue de Nebuchadnezzar et s'étaient dit, oh, enfin, on va se mettre à genoux comme les autres, nous on va prier Dieu, eux vont prier ce qu'ils veulent, personne n'y verra rien, on ne va pas faire des problèmes quand même. Que serait-il arrivé s'ils avaient pris ce raccourci-là? L'histoire biblique nous montre plusieurs exemples de gens qui ont pris des raccourcis et d'autres qui ne les ont pas pris, qui les ont refusés. Nous pouvons voir dans l'histoire biblique, jusque dans l'histoire contemporaine, les résultats du raccourci que Abraham a pris. Le raccourci de la servante. Alors que Dieu lui avait fait une promesse en lui disant que c'est lui qui allait la réaliser, cette promesse. Aujourd'hui encore, nous voyons les conséquences désastreuses, violentes, du raccourci d'Abraham. Moïse aussi avait la conviction qu'il était appelé à délivrer le peuple Israël. Il a pris le raccourci en se disant « je vais le faire tout de suite », il a tué un Égyptien. Un raccourci qui lui a valu 40 ans de marche dans le désert avec les moutons. Parce que le chemin de Dieu est souvent beaucoup plus long que le nôtre. Le chemin de Dieu est souvent beaucoup plus long que le nôtre. Et c'est ce qui produit chez nous souvent cette impatience. Nous ne voulons pas prendre le long chemin de Dieu, ce chemin qui traverse le désert la plupart du temps. Un long chemin durant lequel nous demandons, mais enfin Seigneur, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi m'emmènes-tu dans ce désert? Et vous vous souvenez de ce passage que nous avons lu tout à l'heure dans le livre de Deutéronome, où Dieu dit à ses enfants, je vous ai emmenés dans le désert, vous avez souffert de la faim, mais je vous ai nourri. Tout ce long voyage au travers du désert, il était nécessaire pour le peuple d'Israël. Vous vous souvenez aussi que, pris d'impatience, beaucoup d'entre eux ont dit, non, c'est assez, Moïse est parti voir Dieu, qui reste avec lui, nous on choisit un chef, on rentre en Égypte, on repart en Égypte. Raccourci, impatience. Le chemin que le Seigneur propose est souvent un chemin beaucoup plus long, beaucoup plus difficile à nos yeux, beaucoup moins direct, qui va demander de notre part de la patience, qui va demander de notre part de la persévérance, de la consécration. Écoutez ce paragraphe que j'ai trouvé et qui me paraît tout à fait approprié. En parlant de la tentation de Jésus, l'auteur écrit « Nous pouvons de même résister à la tentation et obliger Satan à s'éloigner de nous. Jésus a remporté la victoire par la soumission et la foi en Dieu. Et il nous fait dire par un apôtre, « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. » Nous ne pouvons échapper par nous-mêmes au pouvoir du tentateur. Il a vaincu l'humanité, et si nous essayons de nous défendre par nos propres forces, nous devenons la proie de ses artifices. Mais le nom de l'Éternel est une forteresse. Le juste s'y réfugie et trouve une haute retraite. Satan tremble et fuit devant l'âme la plus faible quand elle cherche un refuge sous ce nom tout-puissant. Je crois cela. Je crois cela. Je crois que nous avons la possibilité, comme Jésus, de résister à l'épreuve que le diable met sur notre chemin pour nous inviter à aller plus vite. Il nous propose en réalité une religion de supermarché. Ici et maintenant. Achetez maintenant, payez plus tard. C'est exactement le raccourci que le diable nous propose d'appliquer à notre vie religieuse ce que nous vivons dans le domaine quotidien. Achetez maintenant, payez plus tard. N'attendez pas d'avoir l'argent, vous n'aurez jamais. Achetez maintenant, payez plus tard. Ici et maintenant, tu peux l'avoir. Je te fais crédit. Je me demande d'ailleurs qui a inventé les cartes qui portent ce nom. Une religion de supermarché. C'est le raccourci que le diable nous propose. Et souvent, nous pouvons être tentés de dire « Je suis fatigué du long chemin que le Seigneur, dans lequel le Seigneur m'a conduit. » Nous retrouvons dans les évangiles cette parabole de Jésus qui fait dire à ces personnages « Le Maître tarde à venir. On en a assez d'attendre. On en a assez de prendre le long chemin difficile et ténébreux et rocailleux et difficile que le Seigneur met sur notre chemin. On veut prendre le raccourci maintenant. On veut arriver au but tout de suite. Maintenant, on payera plus tard. » Je comprends dans ce sens ce qui nous est dit de ceux qui attendent le retour de Jésus et qui sont prêts pour son retour. Dans le livre de l'Apocalypse, il nous a dit au chapitre 12 quelque chose que vous connaissez bien par rapport à ceux qui attendent Jésus avec impatience. Il nous a dit, c'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Parce que ceux qui ont fait tout le long chemin par lequel le Seigneur les a conduits ont besoin d'une dose particulière de persévérance. Persévérance pour garder les commandements de Dieu, justement. Persévérance dans cette foi inébranlable en Jésus comme le Sauveur, le Seigneur. C'est un long chemin. Tous ceux qui seront debout lorsque Jésus reviendra auront pris ce long chemin qui les aura peut-être emmenés aussi au désert avant de pouvoir rentrer dans la terre promise. Un long et dur chemin parfois. Où on se demande où il conduit. Où on se demande pourquoi a-t-il donc fallu passer par ce long chemin avant d'arriver au bout. Le Seigneur n'a-t-il pas un chemin plus court? N'a-t-il pas un chemin moins pénible? N'a-t-il pas un chemin moins parsemé d'embûches? Un chemin plus simple, un chemin plus facile, un chemin plus direct? Achetez maintenant, payez plus tard. La tentation, c'est un raccourci. C'est l'invitation à prendre le raccourci, non pas pour faire le mal, mais pour faire ce que nous pensons être bien. Mais le chemin de Dieu est un chemin long, dans lequel il nous invite à développer avec lui cette communion, cette relation personnelle. Le Seigneur n'a pas créé le fast-food et le fast-religion. Il nous propose un chemin, une marche avec lui, qui va faire que le long du chemin, nous allons développer cette amitié et nous allons comprendre à quel point nous avons besoin qu'il soit avec nous tout le long du chemin. Il nous a laissé une promesse. Si nous pensons que le chemin est long, si nous pensons qu'il est interminable, si nous pensons qu'il n'en finira jamais, le Seigneur nous laisse une promesse dans la première épître de Jean au chapitre 4. Par l'intermédiaire de son apôtre, Jean, le Seigneur nous fait cette promesse. Première épître de Jean, chapitre 4, verset 4. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu, et vous les avez vaincus, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Je crois à cela. Et je crois que nous pouvons être vainqueurs parce que celui qui est en nous, celui qui est avec nous tout le long du chemin, est plus grand que celui qui est dans le monde. Et par sa grâce, il veut faire de chacun d'entre nous un vainqueur à sa gloire. Amen.